Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre ?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Île-de-France sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter l'émission Hors les murs, une occasion du Festival d'Avignon. On a vu du off surtout parce que pour Léine, c'était tout complet ou presque. On a failli voir Brel, mais arriver jusqu'à la carrière de Boulbon, c'était hélas trop compliqué pour nos festivaliers. Bref, nous avons préféré rester off. Passons maintenant aux choses sérieuses. On commence tout de suite avec une interview d'Emmanuel De Candido pour parler de sa pièce « Fils de bâtard » à la manufacture, tous les jours à 16h05.
Alors, ce matin, nous sommes au Théâtre des Dômes avec Emmanuel De Candido pour parler de sa pièce « Fils de bâtard » qui se joue au Théâtre de la manufacture tous les jours jusqu'au 22 juillet à 16h05. Merci Emmanuel d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Alors, on est ici pour parler de ta pièce, donc Fils de bâtard, qu'on a découvert hier avec Guigui. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'histoire de cette pièce ?
Fils de bâtard, ça pourrait ressembler à une insulte, mais en fait c'est un cri d'amour. Le bâtard, c'est moi, donc c'est une histoire vraie. Je suis parti sur les traces de mon père, que j'ai un peu connu, mais avec qui j'ai pas grandi. Et je suis parti au Congo, en Antarctique, sur ses traces des régions où il a habité, où il a travaillé. Et quand je suis revenu, j'ai écrit un texte, c'était fait. Et puis je me suis posé cette question, je me dis, mais tu vas parler pendant plus d'une heure d'un père absent avec qui t'as pas grandi. Et tu vas pas parler de ta mère qui t'a élevé, une femme discrète, infirmière, pendant 45 ans. Et je me suis dit, c'est pas possible, et j'ai tout recommencé. Et donc ça a donné ce spectacle-là, un mélange de styles entre le théâtre de narration, mais aussi il y a de la musique live, du slam, un bison géant, et même une scène de mime.
Oui, effectivement, vous avez parlé de... Donc, au début du spectacle, vous dites vouloir parler de votre père, mais finalement, on n'entend pas les noms de votre père. Mmh. On les veut. Vous ne l'incarnez jamais sur scène, ouais. et on voit tout le temps votre mère. Mmh. Comment vous avez travaillé sur cette opposition ?
Ben en fait, déjà, s'il y a peu de noms qui sont cités, c'est parce qu'on avait envie, on est 10 à avoir créé ce spectacle, en réalité, même si c'est un faux seul en scène. Mais on avait envie que ce ne soit pas un spectacle où le plus important c'est l'autobiographie, mais surtout on renvoie aux spectateurs, aux spectatrices cette question un peu fondamentale qui est à quel passé est-ce que chacun, chacune, on doit se confronter pour devenir soi-même. Donc l'enjeu c'était surtout celui-là. Et là c'était de témoigner d'un trajet de vie, alors c'est le mien. On se dit, ben voilà, en fait, le focus c'était ça, c'était les traces du père, et puis il y a des bouleversements, et de se dire qu'est-ce qui est vraiment, pour chacun, chacune, qu'est-ce qui est vraiment... Qu'est-ce qui est le plus urgent, le plus nécessaire à vivre, à raconter ? Et c'est ça qui a fait le bouleversement du spectacle.
Pouvez-vous nous parler du processus d'écriture du spectacle ? Vous êtes parti, vous dites dans le dossier de presse, vous êtes parti d'une phrase écrite en 2016. « J'irai boire un café avec mon père parmi les morts et je reviendrai vivant. »
Oui, c'est une phrase que j'ai écrite dans un carnet à un moment de ma vie qui n'était pas évident, professionnellement mais aussi personnellement. Et j'avais cette sensation que... comme quelque part comme le possible n'était plus possible, enfin ce qui m'entourait quoi, qu'il fallait tenter l'impossible. Et je suis parti de cette phrase là et je me suis dit mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire boire un café avec mon père parmi les morts. Et je me suis dit mais peut-être partir dans ces régions, je suis pas du tout un grand voyageur, ça me semblait un peu audacieux quoi, mais partir dans ces régions au Congo, en Antarctique, je pensais d'abord partir en Libye aussi, où c'est la guerre civile encore aujourd'hui. Puis comme en chemin je suis devenu papa, je me suis dit que j'avais plus trop envie de jouer les reporters de guerre. Mais donc au niveau du processus, c'est ce que je raconte dans le spectacle, c'est d'abord une sorte de théâtre documentaire, donc c'est beaucoup de témoignages que j'ai récoltés. Et puis c'est aussi de l'écriture plateau, donc un aller-retour entre des essais sur scène, des improvisations, et un aller-retour comme ça entre documentaire, écriture textuelle et écriture plateau.
Alors moi j'avais une question par rapport à tous ces voyages. Qu'est-ce que vous avez compris sur votre père avec ces voyages ? Parce qu'on se dit finalement, il part au bout du monde pour comprendre que en fait son père n'est pas la. Enfin c'est une figure, c'est ce gigantesque bison muet qui obsède votre, j'imagine, votre esprit d'enfant ou même d'adulte. Mais finalement, qu'est-ce qu'on trouve en allant à l'autre bout du monde ?
au minimum, ce que ça m'a permis, c'est que, quelque part, c'est de le rendre concret, de dépasser un peu le mythe familial. Alors, chacun a son mythe familial, quoi. Mais c'est vrai que de savoir que mon père avait été explorateur pendant un an en Antarctique, ça paraît presque comme ça une histoire pour enfants, enfin un truc énorme. Tintin avec toutes les questions, c'est bien visé, parce que Tintin au Congo, c'est aussi des questions du colonialisme et du postcolonialisme. Et par exemple, en allant en Antarctique et en vivant concrètement cette expérience qui est très difficile à décrire, c'est comme s'il y a quelque chose qui devenait beaucoup plus simple et beaucoup plus concrète, quoi, de vécu. Et c'était aussi une façon de le rencontrer, c'est étrange à dire, mais simplement. Même si le voyage peut sembler énorme, et il l'est. Mais ouais, de retrouver du concret et de la simplicité.
C'est partager les mêmes expériences que lui, voir les mêmes lieux.
Oui, et puis il y a quelque chose de symbolique. Alors moi, je ne crois pas trop au symbole en soi, mais je trouve qu'il y a parfois des objets. Par exemple, là, autour du cou, je porte une pierre, une labradorite, qui m'a accompagné pendant tous mes voyages. Je ne crois pas à la puissance des pierres, mais par contre, je me dis que ce qu'on y investit, nous, émotionnellement ou dans notre expérience, bah, du coup, c'est porteur, quoi. Que ce soit un voyage, que ce soit un objet, mais ce sont des choses, des expériences, des objets qui nous accompagnent et qui ont leur force. Et le spectacle Fils de bâtard, pour moi, c'est un récit, mais c'est aussi un acte théâtral qui a sa part rituelle. Et c'est là aussi le point commun, sa dimension symbolique, pour moi, mais pour les gens qui sont dans la salle.
Oui, je voulais exactement que vous nous parliez de cette... ça veut dire quoi pour vous que ce spectacle est un acte? Donc vous faites un peu référence au théâtre antique comme un moment sacré, un peu comme dans le théâtre de Castellucci.
Oui, je crois... Pour moi, depuis longtemps, pour moi, l'espace du théâtre, c'est à la fois un espace qui est tout à fait futile et qui est tout à fait essentiel. Il est futile dans le sens où c'est comme une cour de récréation d'enfants. Elle est délimitée, on va faire un jeu, il y a quelques règles du jeu, c'est ça l'espace théâtral. Et puis il a sa dimension essentielle qui permet de faire émerger des propos politiques, symboliques, émotionnels forts qui nous emmènent loin dans les récits, mais aussi en nous-mêmes, quoi. Les Fils de bâtard, c'est très marqué, ça, puisqu'à un moment, en effet, dans le spectacle, je le dis, c'est une anecdote qu'un acteur flamand m'a donnée. Il m'a dit pourquoi est-ce que le public se lève à la fin de la pièce? C'est pas seulement pour applaudir les acteurs et les actrices, mais c'est aussi pour laisser partir les morts et les esprits qu'on a convoqués pendant le spectacle, pour les laisser partir et pour que le public se sente vivant. Donc c'est à la fois aussi cette célébration de la vie, quoi. Et ça, je trouve que le théâtre, plus que d'autres formes artistiques, par exemple que le cinéma, dans cet espace partagé, permet ça, quoi, la célébration du vivant.
Quand vous dites ça dans le spectacle, justement l'allusion, là, on salue les morts, on les fait partir. Effectivement, ça résonne très très fort avec votre discours, quoi. C'est vraiment l'exorcisme, cette espèce d'idée du père qui est resté hanter les esprits. Et puis, évidemment, ce qui est magnifique et qui touche aussi enfin, beaucoup de gens, parce qu'on est tous, on a peut-être connu nos parents, mais on va tous les perdre. Mmh. Et donc la scène de la maman, enfin, moi c'est une scène que j'ai connue aussi, et ça résonne très très fort. Notamment, votre gimmick qui revient souvent, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à refaire, est-ce qu'on a... Et effectivement, vivre la mort d'un proche, et un peu la dire, en fait on peut pas rater, mais la faire comme on se dire a posteriori, on n'a pas fait comme il fallait, c'est quelque chose de très très fort. Et enfin, je sais pas, et vous le rendez, enfin je vous laisse raconter, mais vous voulez pas le raconter, mais c'est très très beau, c'est très très beau, d'espèce de convoquer finalement, on a l'impression tout Bruxelles et tout le public, enfin c'est une très belle idée. Enfin,
bah, en effet, c'était une idée. Donc, ma mère, elle a été malade pendant des années. C'est aussi un des sujets du spectacle. Si on doit parler de thématique, j'aime pas trop parler de thématique parce que, par exemple, Fils de bâtard, c'est un spectacle qui a à la fois sa ligne rouge simple, mais qui a aussi dans les informations sa complexité. Mais quand même, une des thématiques, c'est l'accompagnement de fin de vie. Et de se dire, bah, comment est-ce qu'on fait pour vivre ces moments-là, que ça nous arrive nous, on va bientôt partir, on va tous mourir, hein, on le sait, ou bien des proches, et quelle célébration est-ce qu'on peut donner à ça, parce que chaque vie mérite, je le crois, chaque vie mérite d'être racontée, et chaque vie permet d'être célébrée, ou la catharsis en tout cas, ou d'être exorcisée. Et donc ça, c'était un des enjeux du spectacle, ouais, de Fils de bâtard.
Donc vous,
oui. Stupide, mais est-ce que vous êtes en train de mettre en scène votre propre mort? Vous avez préparé un truc, un happening C'est un truc auquel vous pensez ou c'est une question un peu bête, mais je sais pas.
Y a pas de bête question. Alors c'est donc, j'ai jamais pensé à ma propre mort, si, mais pas à la. La célébration de ma propre mort, non.
Pas forcément la célébration, mais comment ça va se passer? Parce qu'il y a le point de vue, évidemment, de la personne et de l'entourage.
Non, par contre, ce que je dis, c'était une idée de ma mère que je dis dans le spectacle. Je dis pour elle, qui a été infirmière 45 ans, pour elle, le plus important, c'était pas de savoir si les gens qu'elle recevait à l'hôpital allaient mourir ou pas, puisque mourir, on va tous mourir à un moment ou à un autre. Mais son idée, c'était de dire, par contre, ce qu'elle refusait, c'était la tristesse, la souffrance et l'injustice. Et ça, c'est quelque chose qui me parle. Que ce soit par rapport à ma propre vie ou celle des autres, de dire, je vais parler pour moi, mais de dire dans ma propre vie et voilà, dans le parcours, et peut-être et sûrement un jour ma mort, mais de se dire comment est-ce que je peux me retrouver dans une situation qui n'est pas pleine de tristesse, de souffrance ou un sentiment d'injustice. Et ça, c'est quelque chose, je crois, à laquelle on peut travailler. Ouais.
Et donc, vous dites, à un certain moment, quand vous comprenez que vous êtes en train de parler de votre père, mais que vous ne parlez pas de votre mère qui vous a élevé pendant des années, qui s'occupait de vous toute sa vie. Donc vous voulez parler de ces femmes dont on ne parle pas. Est-ce que dans la construction du spectacle, est-ce que vous avez eu des références à votre œuvre qui ont mis en valeur la vie de ces femmes, personnes
Bien sûr. En fait, depuis des années, la compagnie MAPS travaille depuis longtemps sur des questions de territoire, d'identité, de colonialisme. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu ce switch dans ma tête de me dire, mais il y a un rapport, il y a un parallèle fort entre la question du traitement des territoires dans un contexte colonialiste et celui des corps, et particulièrement du corps des femmes. Donc ma mère en milieu hospitalier, mais aussi la question de l'avortement, la question d'être maman solo et de comment est-ce que la construction sociale fait qu'il y a un abus de pouvoir par rapport aux femmes invisibilisées, aussi au corps des femmes. Et je suis accompagné sur ce spectacle par plusieurs personnes, mais notamment une dramaturge qui s'appelle Caroline Godard et qui a un focus très important sur le féminisme, sur la communauté LGBTQIA+. Et donc parmi les références que je lisais, ça allait de Mona Chollet jusqu'à Esther Plat, Jouissance Club, parce que c'est des questions par rapport à la sexualité, Ovidie, La chair est triste hélas. En fait, j'étais aussi dans toutes ces lectures-là. Et c'est à travers toutes ces lectures que je me suis dit, mais en fait, tu passes à côté de ça et il faut aussi tout revoir dans ton spectacle aussi avec cette lecture-là. Quoi.
Et votre mère est extrêmement présente, donc on la voit sur scène. Comment vous avez pu construire son personnage?
Par exemple,
il y a cette scène où vous êtes en train de boire un café chez elle. Comment vous avez fait pour la faire vivre sur scène?
À l'oreille. À l'oreille, parce que presque toutes les phrases, quand je la fais parler, presque toutes les phrases, je les commence par Emmanuel. Emmanuel. Et c'est dans mon oreille la manière dont elle m'appelait ou son intonation. Il y a énormément de gens qui m'appellent Manu. C'est une des rares personnes qui m'appelait Emmanuel. Et donc, ça n'a l'air de rien, mais c'est comme presque une convocation de sa voix et de sa présence pour moi. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a des amis à elle qui sont venus voir le spectacle. Elle était déjà décédée, mais qui sont venus voir le spectacle et qui se sont dit « c'est dingue, ça m'a fait plaisir de revoir ta maman ». Donc visiblement, il y avait quelque chose, évidemment, dans le physique, enfin voilà, je ressemble à ma mère. Mais aussi dans cette évocation-là qui avait l'air de fonctionner. Hein.
Et à propos, tu voulais dire une chose?
Je ne sais pas si tu veux continuer à poser des questions. Non, évidemment, c'est un spectacle, vous n'êtes pas tout seul sur scène. Non. Et puis vous faites plein de choses, vous faites du mime, vous chantez. Puis il y a il y a cette guitariste extraordinaire,
oui,
il faut donner son nom, et qui joue magnifiquement bien, qui vous accompagne. Le choix aussi d'avoir le gars qui s'occupe des lumières sur scène, le régisseur sur scène, enfin tout ça, vous les convoquez même, ils font partie de votre vie en fait, parce que... sont des proches, peut-être vous pouvez en parler, cette
bien
idée
sûr.
De tout réunir.
Bien sûr. Alors c'est Orphis La Barbe qui est à la fois, donc qui envoie les pistes son, mais qui fait de la musique live aussi, de la guitare, qui est au chant. Pour le coup, Orphis, ça a été une rencontre au cours de ce projet-ci, qui a évidemment un talent fou, mais je trouve aussi une présence sur scène qui est extrêmement forte, extrêmement soutenante. Et alors il y a Clément Papin qui a la régie son, qui est en réalité le directeur technique, qui manipule le bison géant et que je connais depuis une dizaine d'années et qui lui-même a suivi vraiment toutes les étapes. Et puis alors c'est quelque chose d'étonnant à dire, mais lui-même a perdu son papa sur l'une des créations et forcément on prend de l'âge, on a des proches qui disparaissent. Et je pense qu'on a chacun, chacune, la sensation que dans ce spectacle-ci, eh ben aussi dans cette marche dont vous parlez, on convoque aussi nos morts dans cette grande cohorte comme ça finale, ce grand groupe qui est décrit dans la dernière scène. Donc il y a quelque chose de puissant aussi pour nous. Et c'est sûr que je ne suis pas seul sur scène, c'est pour ça que j'en parle souvent comme un faux seul en scène.
Absolument. Si vous réussissez à incarner... une foule, votre mère, enfin c'est très bon.
Et à propos des fins de vie, accompagnement des fins de vie, votre spectacle m'a rappelé un spectacle que j'avais vu ici il y a des années, s'appelait « Sur la conception du visage du Christ ». Donc c'est un spectacle de Romeo Castellucci qui part d'un père vieillissant qui est malade et son fils doit partir, mais il s'occupe, mais il, au même temps il veut rester, il ne veut pas abandonner votre... son père. Mais là, dans votre spectacle, il y a votre mère qui a mis... Oui, votre mère qui a mis une valeur. Et ouais, on dirait que c'est un peu une sorte d'inversion. C'est... Ouais. Mm-hmm. Non, mais c'est effectivement la fin des vies. Je pense que c'est un sujet qui est hyper universel, mais dont on ne traite pas assez de l'éther. Et je trouve que c'est... Angelica Lido l'a aussi écrit sur la fin des vies. Je trouve que c'est hyper... que vous arrivez vraiment à nous faire ressentir plein de choses. Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez dans l'âme du spectateur pendant le spectacle?
En tout cas, par rapport à la fin de vie, ce qui est sûr, on se posait la question. Nous, on vient de Belgique, donc. Et la question de l'euthanasie, au niveau du cadre légal et de la pratique de l'euthanasie, est différente par rapport à la France. On a un cadre légal qui est beaucoup plus marqué, qui est beaucoup plus progressiste, un peu plus comme les Suisses. Là, les dernières statistiques que j'ai eues en France, c'était que 75% de la population en fait, était favorable à ce que la législation avance. Et pourtant, on sent qu'il y a encore une espèce de blocage politique et qui pose question. Après, si on parle d'euthanasie, il y a à la fois l'accompagnement de fin de vie, vraiment au sens de que les personnes en fin de vie aient moins de douleur, et puis ce qu'on appelle plus l'euthanasie active, c'est-à-dire pouvoir choisir le moment à partir du moment où il n'y a plus de solution thérapeutique. Et là, dans ce geste-là, ça veut dire aussi la possibilité de réunir autour de soi la famille, les proches, et de décider du moment et de partir comme ça dans... de quitter la vie dans ce moment de collectif aussi. Et c'est vrai que une des choses, en tout cas, c'est par rapport au public, les deux choses avec lesquelles j'aimerais bien qu'ils ressortent, c'est évidemment ces interrogations-là, mais pour moi, les deux questions, c'est la première, c'est à quel passé est-ce qu'il faut se confronter pour devenir soi-même ? Et chacun a sa façon, mais on est tous et toutes concernés. Et puis c'est la question que je répète souvent qui est si tu devais recommencer un instant de ton existence, un seul pour transformer ta vie, est-ce que tu sais quel instant tu choisirais ? Et qu'on puisse le recommencer ou pas, je trouve ça intéressant de se poser cette question pour se dire, ok, quels sont les moments pivots de ma vie ? Et en fait, qu'est-ce que je veux en faire aujourd'hui ? C'est toujours la question de se dire qu'est-ce qui est le plus essentiel et le plus urgent pour moi et de ne pas passer à côté de ça, peu importe ce que c'est.
Merci. Et j'ai une question toujours sur... donc tout à l'heure, Guillaume, tu as parlé du fait qu'il y a de la musique sur scène. On voit plein... Donc c'est un théâtre multidisciplinaire qu'on voit sur scène. Il y a deux mimes. Au niveau... vous chantez aussi. Au niveau de l'écriture, quand vous avez... votre spectacle ressemble un peu à un millefeuille. Et c'est très riche tout ce qu'on voit. Comment vous avez pensé ces épaisseurs au niveau du processus d'écriture ?
C'est quelque chose qu'on travaille depuis plusieurs spectacles. C'était déjà le cas avec un spectacle qui s'appelait « Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?». Alors c'est nouveau, on est très fort sur les titres. En cinéma, on appelle ça des harengs rouges. Donc ça veut dire qu'on pense qu'on va parler de quelque chose. En fait, il y a autre chose qui vient après. C'est un spectacle qui parlait en réalité d'un lanceur d'alerte, un ancien pilote de drone. Mais le gros de notre travail, en réalité, c'est pas tellement l'écriture textuelle, c'est la dramaturgie. C'est de savoir justement au niveau de la construction des spectacles, comment on a un peu des spectacles qui sont pleins comme un œuf, mais comment est-ce qu'on va trouver une manière, comme ça, un fil rouge, quand même une certaine simplicité, pour que le public puisse recevoir via différents médias, le texte, la musique, ce qui se passe visuellement. une série d'informations, de sensations, d'émotions, et comment petit à petit les choses vont se mettre en place. Par exemple, tu as cité un Castellucci, Angelica Liddell. Moi, un spectacle qui m'a extrêmement marqué, c'est By Heart, donc de Thiago Rodriguez, qui est un spectacle qui a l'air extrêmement simple, mais en réalité qui est d'une construction redoutable, qui est presque un numéro d'illusionniste textuel, mais un numéro d'illusionniste, et dont la dramaturgie est brillante. Et donc on travaille vraiment beaucoup, beaucoup là-dessus, ça nous prend beaucoup de temps. C'est pour ça que Fils de Bétard, il a fallu 7 ans pour créer ce spectacle. C'est aussi en raison de cette dramaturgie particulière.
Est-ce que tu envisages une suite pour Fils de Bétard ?
Tu veux dire Fils de Bétard 2 ?
Je sais pas, mais moi j'ai l'impression que ça va pas... J'ai l'impression que ça termine pas là. Mmh. Mais c'était juste un ressenti.
Je sais pas si je referai un spectacle de ce type-là, en tout cas aussi autobiographique. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, ce glissement entre la question des territoires et des corps, ça m'intéresse. Le prochain chantier sur lequel je travaille, c'est sur le toucher, donc le sens, le toucher, et la déconstruction de la sexualité masculine. Alors comme ça, on pourrait dire, mais quel est le rapport ? Mais c'est justement là-dessus, sur la question des rapports de pouvoir, du traitement du corps et des corps, et d'avancer aussi vers cette réflexion-là. Est-ce que ce sera de nouveau un millefeuille ou un acte théâtral, on pourrait dire un peu plus direct ? Ça, je ne sais pas encore, mais l'avenir nous le dira.
Ah, Emmanuel, j'ai deux dernières questions. La première, je voudrais savoir comment... Donc, tu n'es pas seul à la mise en scène dans Fils de Bâtard, mais tu es accompagné par Olivier Lelel. Je lis mal.
Ok, je te laisse prononcer mieux. Et est-ce que tu peux nous dire comment vous avez travaillé ensemble ?
Oui, bien sûr. Ben, Olivier Lelel, donc, il est co-metteur en scène. On est trois artistes associés dans la compagnie MAPS. C'était déjà le co-metteur en scène de Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? Et une de ses immenses qualités, il ne travaille pas avec la compagnie MAPS, c'est que c'est un metteur en scène qui, quand on arrive avec un projet très personnel ou à soi, il a cette intelligence de plonger dans l'univers du porteur ou de la porteuse de projet, de très fort écouter, d'être en plein de propositions, mais vraiment très ouvert à ce qui est essentiel ou important pour l'acteur ou l'actrice qui est sur le plateau. Donc à Avignon, il travaille aussi avec Didier Poitou, qui présente Fast au Théâtre des Dons, là où on est. Mais donc c'est cette qualité en même temps de pouvoir écouter textuellement ce qui est proposé et de faire des allers-retours entre le plateau et le texte.
Et après aussi, j'étais curieuse, mais ça part de quoi ton texte ? Pourquoi Jessica a quitté Brandon ? Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose ? J'ai vu qu'elle est passée à Paris, vous êtes passé, oui, au 5-4. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose ? Parce qu'on l'a raté, on ne l'a pas vu.
Et donc c'était un spectacle en effet qui a eu le prix des lycéens au Festival Impatience. Donc c'est aussi un titre comme ça qui avance un peu masqué. En réalité c'est un spectacle qui parle d'un ancien pilote de drone de l'armée de l'air américaine qui devient après lanceur d'alerte, qui témoigne dans les médias. C'est un spectacle qu'on a joué plutôt au 104 au Festival, mais un peu en périphérie de Paris. Et puisque je parle à Radio Campus, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'occasion pour ces deux spectacles-ci de trouver le théâtre qui nous accueillerait pour ces créations-là, malgré l'enthousiasme public et presse. Donc voilà, c'est une de nos grandes curiosités, c'est est-ce qu'on trouvera le chemin ?
On t'attend à Paris. Merci. Ouais. Merci beaucoup Emmanuel.
Merci.
Et bon festival.
Merci à vous aussi.
Se pensi che gli anni non andano a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che parzi gradita, e breve gioire, bisogna morire. Non val medicina, non giova la china, non si può guarire. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
te influenza und der nackte TikTok-Tänzer. Ohne viel Geziere, bisogna morire. Der Gamer und Podcaster, der Quiz- und Talkshow-Master. E-Sports-Turniere, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Der Bauer auf dem Trecker, Wikipedia-Faktenchecker, Berufsoffiziere, bisogna morire. Der Driver von Uber and the famous YouTuber, trotz Spenderniere, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao.
La morte è crudele, a tutti infedele, ognuno svergogna, morire bisogna, e pur o pazzia, o gran frenesia, partirsi menzogna, morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna. Si muore cantando, si muore sonnando, la cetra o sampogna, morire bisogna. Si muore danzando, bevendo, mangiando, con quella carogna, morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna. Zeitschwurbler, Hedgefondbanker, Risikopapiere, bisogna morire, Startup-CEOs durch die Nacht und atemlos. Ich zitiere, bisogna morire, e quando che meno, ti pensi ne seno, ti viene a finire, bisogna morire, se tu non vi pensi, hai persi gli sensi, sei morto e puoi dire, bisogna morire, 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 bisogna morire.
Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
Alors, on part maintenant de Nos âmes faibles, de Nathalie Mathy du collectif Lila Luna, que vous pouvez voir à 13h45 au Théâtre Transverse. Guigui, on t'écoute.
Alors, c'est notre première pièce, là on vient d'arriver à Avignon. Et notre première, bon, c'est la mise en jambe. Hein. On commence avec cette histoire d'une jeune fille, en fait, qu'on suit, qui a perdu la trace de son père et qui va la retrouver donc par son boulot, en fait, avoir des accès pour pouvoir recontacter donc des services secrets. Enfin bon, faut pas non plus penser que c'est une intrigue de ce type-là, hein, mais bon, ça lui permet d'avoir un pont jusqu'à son père, lui téléphoner. Et comme ça, elle va pouvoir retrouver ce père qui était en fait finalement le coup d'un soir pendant les années 1967 de sa mère. Et donc, elle est le fruit de ce coup d'un soir. Et le père n'a jamais voulu la reconnaître. Et donc, elle se retrouve à connaître la deuxième famille du père. Donc, elle connaît sa demi-sœur. Et donc, le principe de la pièce, c'est de nous présenter ça sous un angle un peu sociologique. Donc, on a une sociologue qui convoque les différents personnages. Et donc, voilà. Bon, finalement, un scénario, somme toute, assez classique. Et puis, une première pièce avec... un discours autobiographique, hein, parce que la personne qui écrit ça, évidemment, enfin, a vécu ça dans sa vie. Donc voilà. Donc, Camilla, toi, tu as peut-être un avis critique là-dessus, parce que j'ai exposé juste l'histoire. Dino.
Oui, je n'étais pas particulièrement emballée par cette pièce. Je la trouvais trop longue. L'histoire est assez simple, évidemment touchante, mais voilà, je trouvais tout ça trop long pour pas dire grand chose. Et en plus, je trouve que la présence de la sociologue est complètement inutile pour le propos de la pièce. Voilà, mais n'hésitez pas à vous faire votre avis au théâtre Transverse à 13h45. On passe maintenant à Pedros, portrait croisé d'un père et de son fils, une création de Maria Clara Villalobos, XL Productions. Alors, c'est une compagnie belge et vous pouvez la voir au théâtre La Manufacture. Il faudra prendre une navette pour arriver au château tous les jours jusqu'au 21 juillet à 15h35. Donc, Pedros, c'est l'histoire d'un père et d'un fils, tous les deux danseurs, qui se retrouvent face à face à des photos des familles projetées sur un grand écran. Ils nous racontent l'histoire de leur vie, imprégnée des danses, chacun avec son parcours à lui, le père dans la danse néoclassique et le fils dans le locking, chacun avec leur joie et leur déception par rapport à leur travail, leur passion, mais dans tous les cas avec un amour infini par la danse. Ils rejouent des vieilles chorégraphies et donnent vie avec leur corps à ces photographies. C'est assez touchant de voir ces deux corps marqués par les passages du temps. C'est une pièce émouvante et joyeuse qui nous fait réfléchir à la transmission, au rapport entre les générations. Je trouvais que la pièce est un petit peu décousue, mais les anecdotes nous racontent bien cette histoire et on passe un bon moment. Toi, tu en as pensé quoi, Guigui?
Alors, bon, moi, pour rebondir sur ce que tu as dit, donc oui, alors Pedros, c'est le nom de famille, hein, en fait, des protagonistes. En fait, c'est vraiment leur vrai nom. Donc, le grand danseur classique, donc le père, qui a fréquenté, travaillé avec Nureyev, donc bon, voilà. Donc, et son fils, la maman aussi, donc on découvre dans l'histoire, et également une très grande danseuse. Que dire? Alors bon, on retombe encore une fois pour notre deuxième spectacle dans un spectacle autobiographique. C'est effectivement très touchant. Moi, j'ai pas trouvé ça décousu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les voir évoluer. Et c'est surtout ce qui m'a marqué, c'est vraiment la complicité, leur sourire permanent et qui ne me semble absolument pas fin. C'est des gens en fait qui sont vraiment heureux et ils sont, de collaborer ensemble. Donc voilà, non, allez-y, c'est assez jouissif. Et puis c'est au château, c'est agréable, au milieu des cigales, c'est superbe.
Et on continue avec Objectif Burnout de Camille Panonaclet et Jonathan Michel de la compagnie Contrechamp, que vous pouvez voir tous les jours jusqu'au 22 juillet à 18h25 à l'hôtel de la Manufacture. Il faudra prendre la navette pour arriver à la patinoire. Alors, donc, Objectif Burnout, c'est une pièce assez atypique et drôle sur les thèmes de rapport au travail et à la société de consommation. Nous sommes dans les années 70 et on suit Bernard, un présentateur d'un jeu télé qui met en valeur la production, l'efficacité sur les lieux de travail, mais aussi le présentateur d'une émission culturelle où il reçoit la philosophe Hannah Arendt pour parler de son essai sur la condition humaine. C'est une pièce rigolote et par moments assez délirante, avec deux musiciens au plateau qui accompagnent l'irascible et fragile Bernard, le présentateur. On passe un très bon moment et on rigole avec Bernard et les autres candidats du jeu télé. Les comédiens, je les trouvais tous excellents. Voilà, ça part un délire total, mais c'est très bien, c'est un très bon spectacle. Toi, tu en as pensé quoi, Guigui?
Moi, j'ai complètement adoré. Donc déjà, il y a l'esthétique qui est complètement désuète, années 70, c'est absolument superbe, avec tout, les décors, les vêtements, les costumes. L'incontournable Bernard, avec son côté présentateur parfait, mais en même temps, hors caméra, peut péter des câbles absolument gigantesques. Bon, alors évidemment, c'est très drôle et ça se veut aussi nous apporter des trucs sur des éléments sur le travail, de critiquer un peu la société de consommation et puis cette volonté de travailler systématiquement beaucoup plus et qui nous mène au burn-out. Mais ça prend pas le pas sur le côté comique. Je trouve qu'on se retrouve pas non plus dans le côté grinçant. Enfin, il y a pas totalement ça. Mais en tous les cas, moi je vous le conseille vraiment parce qu'on rigole énormément. Et puis à noter qu'il y a un petit groupe, guitare, batterie, qui joue tout en direct sur scène. Et bon, ça rend le truc très vivant et très délirant. Et voilà. Enfin bon. Et puis vous irez même sur la lune. Donc vous verrez. Allez-y. Objectif burnout.
Alors, on passe maintenant à article 353 du Code pénal, un texte de Tanguy Vieille, mise en scène d'Emmanuel Noblet de la compagnie Alain Vie et les choses de la vie, que vous pouvez voir au théâtre 11 à 21h15, à 21h45. On t'écoute, Guigui.
Bon, alors, effectivement, là, c'était une pièce que j'attendais vachement, parce que j'avais bien aimé le bouquin de Tanguy Vieille. Et donc bon, bah, le principe, c'est tout se passe, l'action se passe à Brest, hein, et c'est plus ou moins huis clos. On a le juge qui est face, donc c'est dès le début, hein, quelqu'un qui a balancé à l'eau d'un bateau une autre personne et qui est revenu au bord en la laissant en fait se noyer. Mais donc on sait où on arrive, on se connaît le point de départ et on va avoir en fait ce quasi-monologue de cette personne inculpée et qui va expliquer comment elle en est arrivée là. Et donc bon, évidemment, tout le truc magnifique du texte, c'est que on est absolument convaincu et on se dit que nous-mêmes on aurait été prendre ce petit bateau et on aurait balancé la personne en question qui a mis toute la région, enfin moi je l'aurais balancé à l'eau sans aucun problème, hein, je suis absolument persuadé. Donc l'histoire quand même qu'il y a derrière, c'est des histoires, sales histoires d'immobilier, d'arnaque, de gens en fait qui ruinent des personnes et des communes, qui piquent l'argent public et ensuite qui s'en mettent plein les poches et de manière absolument insupportable. Donc bon, enfin bon, pour moi ça fait résonance avec plein de trucs actuellement qu'on entend un peu partout et donc voilà. Et puis la fin est assez satisfaisante. Donc voilà. Toi, Camilla, t'en as pensé quoi ?
Écoute, moi aussi, j'avais très envie de voir ces petits polars bretons. Je trouve que l'écriture est absolument magnifique. Et en plus, quand on voit les deux comédiens aussi, on est pris dans cette histoire. Martial raconte cette grosse arnaque dont il s'est retrouvé victime. Et effectivement, comme toi, je me suis sentie assez proche de son. J'étais complètement en empathie avec Martial et surtout j'ai adoré. Je trouvais ça assez impressionnant toute la scénographie du spectacle. On voit cette sorte de construction qui n'a jamais abouti. Il y a ces ruines sur scène, c'est assez beau. Donc n'hésitez pas à aller au Théâtre 11 pour voir article 353 du Code pénal. Et on continue avec Je suis trop vert. David Lesco, la compagnie du Kairos, que vous pouvez voir tous les matins au théâtre La Manufacture à 9h50. Alors, donc, Je suis trop vert, c'est le troisième volet de la trilogie de David Lesco sur les collèges. Le premier volet de la trilogie, c'est J'ai trop peur. Le deuxième volet, c'est J'ai trop d'amis. Et ça, c'est le troisième volet, Je suis trop vert. Donc, Je suis trop vert, ça raconte l'histoire d'une classe de 6e qui se retrouve embarqués dans l'aventure d'une classe verte à la ferme où ils vont découvrir la permaculture, donc comment on s'occupe des animaux, des plantes, accompagnés par Valérie, cette jeune de 13 ans qui vit à la campagne et qui leur apprend plein de choses. C'est donc, on voit sur scène trois comédiennes qui interprètent tous les rôles, c'est absolument incroyable. L'écriture de David Lesco est comme d'habitude absolument, comment on peut dire, absolument.
C'est absolument vif et virevoltant, ça sautille partout. Parce que bon, je veux dire, immédiatement, moi j'imaginais aller regarder un truc pareil quand j'étais ado ou pré-ado. C'est génial, enfin, ça saute dans tous les sens. disons que il y a la découverte de la classe verte, de la ruralité, il y a la découverte de les premières fois sans ses parents, il y a tout ça, et avec une énergie de malade. Moi je suis ressorti, on a été se coucher tard la veille, et là à 9h50 on était déjà à fond, hein, donc moi je vous le conseille, et notamment si vous avez des enfants, des 10-12 ans, ils vont adorer, tout le monde était à fond là. Donc voilà.
Et il y a ces petits personnages de la petite sœur de 3 ans, complètement paniquée par le futur du monde et très inquiète pour l'écologie, qui est absolument très très drôle et génial. Donc n'hésitez pas à aller à la manufacture à 9h50 pour voir ces petits chefs-d'œuvre. Et on passe maintenant à Paradoxal, un texte et mise en scène de Marianne Tillet, de la compagnie Les Cris de l'Armoire, que vous pouvez voir au Théâtre 11 tous les jours à 14h. Donc, Paradoxal, Guigui, ça part de quoi, Paradoxal?
Alors, Paradoxal, ça parle du monde des rêves, hein, donc on se retrouve dans une espèce d'expérience avec des gens qui dorment ensemble, les rêves, ils réussissent à communiquer dans leurs rêves. Enfin, tout ça est très nébuleux, très bizarre, mais je dois dire que ce spectacle est définitivement, enfin pour moi, le spectacle le plus étrange du week-end. On est dans une ambiance très sombre, avec juste cette grande salle, avec un bureau, et puis cet acteur, donc je ne sais pas comment ça se prononce, Marianne Tillet, mais qui est complètement hallucinant. Au début, ça commence avec une espèce d'ambiance one-man show. Il parle avec le public, il nous parle du sommeil, de plein de choses comme ça, de nos rêves. Et ensuite, ça part dans son expérience, une expérience qui monte devant nous, et avec ces gens qui dorment, ces gens, plein d'histoires qui se mélangent, des histoires de rêves qui se mélangent. C'est teinté de magie, quasiment, parce qu'il y a des choses qui apparaissent, on n'y comprend un peu rien, il y a des bouteilles d'eau partout, de l'eau partout. Ce bureau très étrange qui parfois semble impossible à bouger, parfois se met à bouger tout seul, des apparitions, enfin je me répète, c'est un spectacle très troublant, très déstabilisant. Moi j'ai presque envie de le revoir parce que je lis pas les résumés en fait avant d'aller voir les spectacles, et là j'ai été complètement assez très très étonné, très déstabilisé. Donc voilà, toi Camilla, t'as eu peut-être un avis différent, je sais pas, dis-moi.
Alors, moi, je trouve qu'effectivement, Marianne Tillet arrive à nous montrer quelque chose on a vraiment l'impression d'assister à des hallucinations. Il y a plein de moments où on arrive à recréer cette dimension onirique. Donc, je trouve ça assez intéressant. En même temps, j'étais quand même un peu perdue par l'histoire. Je n'ai pas pu suivre, mais effectivement, on se retrouve dans un monde onirique, la scénographie intéressante, avec tous ces petites bouteilles, mais à un certain moment, je ne pouvais plus et j'avais très envie de sortir. Après, je suis tombée, moi aussi, un peu dans le sommeil. Ça nous fait réfléchir sur le sommeil, sur le fait qu'on ne dort pas assez. Donc, allez-y à vous faire votre avis à 14h au Théâtre 11. Là, maintenant, c'est le moment des CPI que nous étions destinés, un texte d'Aurore Paris, une mise en scène de Vincent Mange-Cortès, que vous pouvez voir au Théâtre 11 à 18h35 jusqu'au 24 juillet. Guillaume, on t'écoute.
Alors voilà, là, c'est l'histoire de Anna et Louis. Donc Anna, c'est une grande star de cinéma. On apprend assez rapidement qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Et donc, elle vit, elle a acheté une maison sur une île. Et elle convoque Louis, et en fait, qui est un ses anciens mecs. Ils sont restés 9 ans ensemble. Ça fait une dizaine d'années qu'ils se sont séparés. Mais elle veut le revoir, en fait, avant de mourir. Bon, l'excuse, le prétexte, ce serait que Louis, cet intellectuel, va pouvoir écrire ses mémoires. Mais bon, c'est plus un prétexte, parce qu'elle veut, en fait, le revoir. On sent ça. Donc, le spectacle est bon, c'est à poil, quoi. Enfin, je veux dire, au sens, il y a vraiment les deux personnages, un huis clos dans la même salle, et puis ce sont des séries d'engueulades, mais de haut vol. des engueulades magnifiques parce qu'on est tour à tour pour Louis ou pour Anna, ils ont tous les deux raison, ils sont irréconciliables, des fois ils se rapprochent pendant une soirée alcoolisée, enfin c'est quelque chose qu'on a tous connu j'imagine, mais bon tout est impardonnable, même impardonnable jusqu'à finalement la mort d'Anna. Parce qu'ils se retrouvent et puis finalement ils se retrouvent pour qu'elle meure. Moi je trouve ça bien écrit. Il y a le personnage de Louis qui est cette espèce d'intellectuel un peu raté qui n'a jamais pu écrire une ligne mais pourtant qui a du génie. Donc bon, Anna lui propose de lui donner un peu de la matière pour écrire quelque chose et le relancer dans l'écriture. Anna, elle, c'est cette star désabusée qui a s'est battue toute sa vie pour devenir la star qu'elle est devenue et puis qui finalement se rend compte que bon, elle s'en fiche un petit peu. Et enfin bon, moi j'ai trouvé ça, c'est l'un des spectacles qui m'a le plus plu du week-end. Je vous conseille d'aller le voir. Nous on a croisé l'acteur qui joue Louis, donc c'est également le metteur en scène. Donc c'est Vincent Minjou Cortès. Désolé Vincent si je prononce mal votre nom. Mais il nous a tout de suite dit oui, vous allez vous prendre une claque, c'est très fort. Et effectivement c'est le cas. Et là pour la peine, il n'y a pas d'artifice, c'est avec deux bouts de ficelle et c'est très fort. Donc voilà, donc moi je le recommande fortement. Et toi Camilla?
Moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette histoire de retrouvailles et voir ces deux êtres s'est dévorer devant nos yeux. C'est assez impressionnant. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, on ne sait pas à qui donner raison. Et je trouve que les deux personnages sont très bien construits parce qu'on a vraiment l'impression, en sortant de la pièce, de les connaître un peu. Donc absolument, c'est une des pièces pour moi de Festival Off à voir cette année, ce pays qui nous était destiné. Au Théâtre 11 à 18h35.
Thank you.
Et on part maintenant d'une autre pièce, Dîner, Le Dîner chez les Français, de Valérie Giscard d'Estaing, une production de la Compagnie des Animaux en Paradis, un texte de Julien Campani et Léo Cohn-Paperman, et une mise en scène de Léo Cohn-Paperman, que vous pouvez voir au Théâtre d'Outremble, mais attention, c'est dans un petit jardin, donc il n'est pas vraiment à côté du théâtre, donc vérifiez bien les lieux avant d'y arriver. Je te laisse la parole, Guigui, pour nous parler de cette pièce. Et vous pouvez voir, donc, c'est le soir et c'est à 21h20.
Alors, donc évidemment, oui, c'était une habitude là, de Valérie Giscard d'Estaing d'aller chez les gens à la rencontre des Français, un peu comme Emmanuel Macron va dans des bars de dans nos régions. Bon, d'abord, la compagnie, elle est connue pour faire le récit, en fait, de tout, des récits sur tous les présidents de la Ve République. Donc là, on a eu... Mitterrand, De Gaulle, Chirac, ou peut-être Chirac est à venir, je ne sais pas.
Non, pour le moment, il y a juste Mitterrand et De Gaulle. Ça, c'est voilà. Le troisième épisode.
Le troisième épisode avec Valérie Giscard d'Estaing. Donc, bon, évidemment, il y a de la matière pour faire un truc assez marrant. Donc, bon, dans l'environnement d'Avignon, on se retrouve immédiatement au milieu des cigales, dans un jardin. Et bon, bah, il faut s'imaginer qu'en fait, on est le soir de Noël et on accueille, ou peut-être non, c'est le Nouvel An. C'est le soir du Nouvel An et cette famille qui accueille Valérie Giscard d'Estaing pour dîner avec sa fabuleuse anémone, sa femme. Donc, évidemment, on s'apprête à énormément de sketchs. Bon, la moitié de la famille, les parents sont plutôt de droite et apprécient énormément Valérie Giscard d'Estaing. Et puis ensuite, bah, les enfants sont plutôt de gauche, voire d'extrême gauche, hein, avec le mari qui est syndiqué chez Alstom. Et voilà. Donc, bon, la promesse hein, du président, c'est... que bon, l'essayer, hein, c'est l'adopter. Hein, donc, il promet qu'à la fin du repas, ça va très bien se passer. Donc, évidemment, bon, ils ont habilement, les auteurs ont habilement tissé un lien entre le repas et puis les différents épisodes de la carrière du mandat de Valérie Giscard d'Estaing. Et donc, le grand plat de poisson se retrouve absolument réduit, par exemple, enfin des choses comme ça au moment de grandes crises. C'est très drôle. Bon, évidemment, il y a une espèce de côté, on rigole parce que des gens avec des grands accents de campagne s'énervent contre le président. Et puis, évidemment, l'accent, ça s'oppose à l'accent ultra pédant de Valéry Giscard d'Estaing qui... se veut cool et sympa, mais qui en fait ne peut pas absolument pas se séparer de ce ton hautain et insupportable. Donc voilà, bon, c'est très drôle. Moi, je vous conseille d'aller le voir, et puis j'ai hâte des prochains épisodes. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Camilla?
Alors, mais comme les autres épisodes, j'ai adoré. Je trouve que toute cette série théâtrale est hyper bien documentée. On rigole, on apprend plein de choses. Moi, je connaissais presque rien de Valérie Giscard d'Estaing parce que je ne suis pas française. Mais voilà, j'ai découvert plein de choses et je trouve en plus la famille bien choisie. On se retrouve, il y a cette scénographie magnifique avec cette petite maison, on rigole. Et puis il y a tous ces petits moments, des chansons et tout ça qui nous font vraiment rentrer dans cette atmosphère de ces années-là. Donc voilà, avec plein de petites blagues comme le jeu du chômeur, etc. Après, c'est Valérie Giscard d'Estaing qui nous fait penser tellement à notre Emmanuel Macron. Voilà. Donc allez-y, n'hésitez pas à aller voir cette pièce au Théâtre du Tremblay.
Troisième jour au Festival d'Avignon, direction les Théâtres des Dômes. Nous sommes ici à 10h30 pour découvrir la nouvelle pièce d'Olivier Lenel et Didier Poiteux, Fast, où peut-on se réapproprier nos désirs dans une société de consommation. Donc Fast, c'est une pièce documentaire sur la fast fashion. Nous sommes dans un dispositif bifrontal. Devant nous, Olivier Lenel et Didier Poiteux nous exposent de façon ludique et rythmée leurs recherches sur les dégâts provoqués par la fast fashion pendant 1h10. On apprend plein de choses, il y a des digressions historiques intéressantes sur la naissance de la mode, comme par exemple qu'à la Renaissance seulement les nobles pouvaient s'habiller avec des habits dorés. Et malgré au-delà de ces anecdotes, avec l'aide des spécialistes, Olivier Lenel et Didier Poiteux décortiquent notre envie de suivre ces tendances. Tout est mis sous une loupe et ça nous permet de prendre du recul et de réfléchir à cette attitude à la surconsommation. Ils analysent d'un point de vue politique et économique les raisons de cette tendance. C'est un énorme travail de documentation. Ils sont même partis au Pakistan pour enquêter et interviewer des personnes qui travaillent dans les industries du textile. Nous avons plusieurs témoignages touchants, comme celui des Arena, qui a perdu son fils de 19 ans dans l'incendie d'une entreprise du textile à l'entreprise. Bref, c'est une pièce très très riche, mais aussi drôle, qui nous donne envie d'agir pour changer les choses, de prendre la parole dans l'espace public, d'interdire les panneaux publicitaires et d'arrêter de polluer les 20% d'eau mondiale pour acheter la dernière chemise bleue à fleurs à la mode chez Zara. Ils sont aussi très très drôles. Donc allez-y, courez les voir et arrêtez de remplir votre garde-robe. Fast à 10h30 au Théâtre des Dômes. Et on passe maintenant à la dernière pièce que nous avons vue au Festival d'Avignon, Annette, de Clémentine Colpin, de la compagnie Canicule, que vous pouvez voir à 13h au Théâtre des Dômes. Annette, c'est quoi? Annette, c'est l'histoire d'une vie, l'histoire de la vie d'une femme de 75 ans. On voit, on écoute sa vie à partir de sa naissance jusqu'à ses 75 ans. Mais la chose extraordinaire, c'est qu'Annette est sur scène pour nous raconter sa vie. Et avec elle, elle est accompagnée de deux comédiennes qui vont l'interpréter dans les différents âges de sa vie et deux danseurs. Donc c'est très intéressant de voir cette vie racontée, décortiquée sur scène, voir cette femme qui est capable de refuser tous les rôles que la société essaie de lui confier. Celui des femmes, celui d'épouse, celui des mères et celui d'hétérosexuel. Annette nous étonne dans sa capacité de refuser tous ses rôles, dans sa capacité de rebondir, de choisir, de faire autrement. C'est une pièce très touchante, originale. Il y a une certaine beauté, cet amour pour la vie qu'on voit sur scène. Cette femme qui a envie de tout, qui ne se refuse à rien. Et donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour aux Têtes des Dômes pour découvrir cette pépite.
Cette émission Hors les murs a été préparée par Camilla Pizzichillo avec la complicité de Guigui et Ron. On se retrouve après l'été sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous et bonnes vacances. Bisous.